Voilà, chers amis, le bon Père Jean-Marie donc m'a donné la consigne de vous parler aujourd'hui, comme il était prévu, de la résurrection du Seigneur, d'une part, de son ascension, et puis aussi, nous allons parler de la présence de Jésus ressuscité dans le sacrement de la Sainte Eucharistie, et également, comment il nous donne la vie par le sacrement du pardon. Et donc la première chose, bien sûr, nous repartons de là où il en était arrivé. Je suppose vous a parlé de la passion et de l'ensevelissement du Seigneur. Donc vous connaissez l'affaire. Au soir du Vendredi Saint, le tombeau est fermé. Le Samedi Saint se passe, il vous en reparlera, je crois. Et puis le dimanche matin, premier jour de la semaine, les femmes vont au tombeau pour faire la toilette mortuaire du Seigneur qu'elles n'avaient pas eu le temps de faire. Elles arrivent donc au tombeau, se demandant bien comment elles allaient ouvrir la porte du tombeau avec cette lourde pierre, et finalement, elles voient que la pierre est ouverte. Elles entrent, le tombeau est vide. Et commence ce formidable message de la résurrection du Seigneur qui est manifesté au monde. Le Christ est ressuscité. Et c'est le cœur de notre foi chrétienne. Jésus est vraiment ressuscité. Saint Paul disait, si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. Oui, il est absolument fondamental de croire en cette résurrection de Jésus. Mais est-ce que nous avons des raisons de croire en cette résurrection? Peut-être nous allons lire tout simplement le récit dans Saint Jean de Pierre et Jean qui courent vers le tombeau. Et je vous le lis. Marie-Madeleine est allée au tombeau, elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau, elle court alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple. On a enlevé le Seigneur du tombeau, nous savons où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre disciple, ils se rendirent au tombeau. Tous deux couraient ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il voit les bandelettes posées à terre. Cependant, il n'entra pas. Arrive Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et voit les bandelettes posées à terre, ainsi que le suaire qui était sur sa tête. Ce dernier n'était pas posé avec les bandelettes, mais roulé à part dans un autre endroit. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier entra aussi dans le tombeau. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter des morts. Puis les disciples s'en retournèrent chez eux. Première chose, c'est la constatation du tombeau vide, premier signe de la résurrection du Seigneur. Le tombeau est vide et nous souvenons que Jean, qui est donc dans ce récit, était là au jour de la mise au tombeau. Donc il avait vu la manière dont on avait posé Jésus sur ce lit funéraire creusé dans le roc, comment on avait roulé la pierre, et donc Saint Jean avait bien vu tout cela. Ils partent avec Pierre, ils arrivent, ils rentrent, et là, instantanément, l'apôtre nous le raconte, il voit et il croit. Mais comment se fait-il qu'il croit tout de suite, comme ça, d'emblée, que Jésus est ressuscité? Parce qu'après tout, nous pouvons nous dire, mais quelqu'un est venu, a pris le corps de Jésus, c'est d'ailleurs ce qu'ont fait dire les grands prêtres, venez dans l'évangile selon saint Matthieu, qui ont payé les soldats pour raconter cette histoire. Mais comment est-ce que Jean lui croit d'emblée en rentrant dans le tombeau? Parce que voit-il en entrant dans le tombeau? Le tombeau est vide, certes, mais il voit la banquette funéraire avec les linges posés dessus. En fait, la traduction n'est pas très bonne, mais on devrait dire les linges affaissés à leur place. Vous imaginez comment Jésus a été mis dans le suaire, cette grande bande de tissu d'à peu près un bon mètre de large sur 4 mètres de long qu'on replie au-dessus du cadavre, qu'on entoure de bandelettes, et puis avec une sorte de suaire autour de la tête pour maintenir le menton, comme on fait encore aujourd'hui parfois pour les défunts. Et donc Jésus était enseveli de cette manière. Qu'est-ce qu'il voit, Jean ? Il voit que les linges sont restés en l'état, mais simplement qu'ils se sont affaissés à leur place. Vous voyez ? Et donc il comprend instantanément que c'est là un miracle, parce que si des personnes de l'extérieur étaient venues prendre le corps de Jésus, forcément ils auraient défait les linges, ils auraient été arrachés, puisque bien sûr vous imaginez que Jésus avec les plaies, les linges, le tissu aurait collé aux plaies, etc. Mais là, les linges sont affaissés, simplement. Et c'est pourquoi saint Jean croit instantanément à la résurrection du Seigneur alors qu'il ne l'a pas encore vu ressuscité. D'ailleurs, chose importante, les disciples ont vu Jésus ressuscité, personne ne l'a vu ressuscitant. Vous voyez la nuance. Parce que cet événement, je vais revenir, c'est d'abord un événement historique que nous décrivent les apôtres et les évangiles. Notre foi est basée sur ce témoignage des apôtres, tel celui de Pierre et Jean, et de tous les disciples qui ont vu Jésus ressuscité. Mais évidemment, voir Jésus ressuscité, ça a tellement bouleversé les apôtres que d'emblée, ils n'ont pas pu y croire tout de suite. Et vous vous souvenez que Jésus leur reproche leur incrédulité. Parce que la nouvelle est tellement extraordinaire, dépasse tellement l'entendement, ils sont tellement surpris, ils s'y attendaient tellement pas, que cette nouvelle, ils ont du mal, et on les comprend, à y croire tout de suite. Et Jésus devra multiplier les apparitions d'une part, mais aussi des gestes concrets pour montrer qu'il n'est pas un fantôme. Père Jean-Marie, je crois, vous reparlera des signes des corps glorieux, mais des propriétés, pardon, des corps glorieux. Mais Jésus n'est pas un fantôme. Et donc, pour leur montrer qu'il n'est pas un fantôme, il mange avec eux. Il demande aux apôtres de toucher, vous vous souvenez avec saint Thomas, de toucher ses plaies. Et ils reconnaissent dans le corps glorifié de Jésus les signes de la passion. Et même s'ils hésitent un moment, parce que Jésus est tout glorieux dans son corps, comme il l'était sur le mont Tabor à la Transfiguration, et vous vous souvenez, les disciples d'Emmaüs ne reconnaissent pas d'emblée Jésus. Mais en même temps, si Jésus a cet aspect glorieux, c'est bien le même qu'ils reconnaissent, notamment dans les signes de sa passion, les marques des clous dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté. Ainsi, ce Jésus qui est ressuscité là est bien le même que celui qu'ils ont accompagné pendant tout son ministère public, celui qui a été livré, jugé, flagellé, condamné, porté la croix et mort sur la croix. C'est le même et identique que Jésus. Et dès que les disciples commencent à comprendre, entrent dans cette vision du Seigneur ressuscité et découvre cette extraordinaire nouvelle, alors ils n'en pourront plus de joie, ils n'en pourront plus d'exaltation, et ils n'auront de cesse, après la Pentecôte, d'aller dire au monde entier cette joie extraordinaire du Christ vraiment ressuscité. Cet événement, comme je vous le disais, est un événement historique. Jésus est ressuscité à un moment de l'histoire bien précis et bien concret. La date de la crucifixion de Jésus, le vendredi saint, est connue. Et donc, il est facile d'en déduire la date de la résurrection, le dimanche suivant. Et donc cet événement s'inscrit dans l'histoire parce que Jésus est ressuscité à un moment précis de notre temps terrestre. D'accord. Mais en même temps, cet événement dépasse l'histoire. Parce que cet événement, on dit, il est transcendant, parce que cet événement ne touche pas que le temps qui est le nôtre, mais il introduit l'humanité de Jésus, et nous avec, nous le verrons par son ascension, il introduit toute l'humanité dans l'éternité de Dieu. Parce que Jésus, dans son corps ressuscité, n'est plus lié au temps ni au lieu même. Il dépasse ces notions de temps et de lieu. Il peut apparaître comme ça. Et puis, il peut disparaître tout pareil. Jésus est déjà dans une autre dimension, qui est la dimension de l'éternité divine avec son humanité. Et donc, à la fois, c'est un événement historique, comme je vous le disais, mais en même temps, un événement qui dépasse notre histoire, un événement transcendant. C'est Jésus lui-même, par sa propre puissance, qui s'est ressuscité, on peut dire. Et on trouve les deux expressions dans l'Écriture sainte. À la fois, on peut dire Jésus s'est lui-même ressuscité, mais aussi le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Parce que cette résurrection, cette qui manifeste la puissance divine, c'est en fait l'œuvre de toute la Sainte Trinité, de la puissance de Dieu. Que se passe-t-il finalement dans la résurrection? Revenons un peu en arrière. Au moment de la mort du Seigneur, Jésus, donc, comme tout mort humaine, son corps et son âme sont séparés. Son corps humain, son âme humaine se séparent. Qu'est-ce que l'on met dans le tombeau, le corps de Jésus? Où va l'âme de Jésus? Elle descend aux enfers. Père Jean-Marie vous en reparlera. Donc, le corps et l'âme humain de Jésus sont séparés. En quoi consiste la résurrection? Elle consiste en la réunion de ce corps et de cette âme. Séparés au tombeau et aux enfers, réunis de nouveau par la puissance divine, de sorte que Jésus est de nouveau vivant et vivant pour toujours, sans être soumis à la corruption, sans être soumis aux limites terrestres de notre humanité. Et donc, vous voyez comment le Seigneur a manifesté sa puissance dans la résurrection. Jésus donc est ressuscité. Et pourquoi Jésus est-il ressuscité d'entre les morts? Parce que il fallait que soit montré le triomphe de la vie sur la mort. Dans le mystère pascal, ce qu'on appelle le mystère pascal, c'est ce qui va du jeudi saint, l'offrande de Jésus, sa mort sur la croix, sa mise au tombeau et sa résurrection, tout le mystère pascal que nous célébrons pendant la semaine sainte. Ce mystère pascal a deux effets principaux pour nous. Par sa mort, Jésus nous libère du péché. Père Jean-Marie vous l'a sûrement expliqué. Jésus nous libère du péché et obtient la rédemption, le salut de tout le genre humain. Mais par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie. Jésus est ressuscité Et en cela, il a vaincu la mort, qui est la conséquence du péché. Donc, c'est finalement l'aboutissement, l'accomplissement de l'œuvre de rédemption qu'il a accomplie en donnant sa vie et en mourant sur la croix pour tous les hommes. C'est donc la victoire sur la mort du péché et une nouvelle participation à la grâce de Dieu. Parce que vous le savez, dans l'Écriture, Dieu est le Dieu, non pas des morts, comme le dit Jésus lui-même, mais le Dieu des vivants. Dieu est le vivant. Dieu est la vie. Le propre de Dieu, c'est de vivre. Et donc, en ressuscitant d'entre les morts et en nous entraînant à sa suite et en permettant notre humanité à la suite de Jésus de ressusciter à son tour, alors nous savons que la victoire de Dieu sur le péché et sur la mort est définitivement acquise. Jésus est le principe et la source de notre résurrection future. Parce que Jésus est ressuscité et qu'il a semé en nous cette grâce de vie par le baptême et par les sacrements qu'il nous donne, ce germe de vie s'inscrit profondément dans nos cœurs et parce que nous participons déjà de cette vie de Dieu sur la terre, nous sommes appelés un jour à participer en plénitude de cette vie de Dieu pour l'éternité et avec lui et en lui et par lui. Jésus est le premier né d'entre les morts, le premier de toute l'humanité, de tous les hommes, à ressusciter, à avoir vaincu le péché. Et à cet égard, il est donc à la tête d'une humanité nouvelle restaurée dans l'image et la ressemblance, une humanité nouvelle guérie du péché, une humanité nouvelle appelée à vivre toujours avec Dieu, par Dieu et en Dieu. Voilà ce mystère de la résurrection, si important pour nous et si central, qui est la lumière jetée sur tout ce que Jésus a dit et a fait. Tout ce que Jésus a fait avant lui, en réalisant d'ailleurs toutes les prédictions de l'Ancien Testament, tout cela vient à la pleine lumière dans la résurrection, dans sa résurrection. Ce que Jésus a dit est vrai, profondément vrai, et sa résurrection nous dit la vérité de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a fait et nous jette dans cette lumière totale qu'il a voulu pour toute l'humanité. C'était le premier aspect sur la résurrection du Seigneur. Le Seigneur, vous le savez, apparaît aux disciples, nombreux parfois, parce qu'on dit, il est apparu, l'Écriture, parfois à plus de 500 disciples à la fois. Mais en même temps, le Seigneur n'est pas fait pour demeurer physiquement au milieu de nous. Même s'il est ressuscité et qu'il était nécessaire que les disciples soient témoins de la résurrection du Seigneur, hier nous fêtions Saint Matthias et Saint Matthias remplace Judas, vous le savez, le 12e apôtre. Le critère pour élire Saint Matthias, c'est qu'il ait suivi Jésus dans toute sa vie publique depuis son baptême, et deuxième critère important, qu'il ait été témoin de la résurrection du Seigneur. Parce que notre foi s'appuie sur ce témoignage des apôtres qui ont vu, qui sont dignes de foi, et qui ont été tellement bouleversés par cet événement extraordinaire de la résurrection du Seigneur, qui sont allés dans tout le monde connu de l'époque pour annoncer cette bonne nouvelle et tous ont donné leur vie pour lui, Jésus, et dire aux hommes l'espérance et la joie qu'il nous laisse en sa mort et sa résurrection. Jésus, donc, pendant 40 jours, apparaît aux apôtres. Mais au bout de 40 jours, et pendant ce temps, il leur dit, il leur annonce, même avant d'ailleurs sa passion, il leur avait annoncé qu'il enverrait l'Esprit Saint. Mais avant d'envoyer l'Esprit Saint, Jésus repart vers le ciel. C'est donc le 40e jour, la fête de l'Ascension. C'est vrai qu'il aurait été sympathique que le Seigneur vive au milieu de nous, que nous continuions à le voir, à lui parler, à échanger avec lui. Je pense qu'on s'est tous assez heureux de cette affaire. Mais ça poserait un petit problème. Vous devinez le problème qui serait posé ? C'est que nous pourrions nous habituer à cette présence physique de Jésus au milieu de nous. Et finalement nous dire, eh bien, nous sommes heureux ici, et puis peut-être comme saint Pierre, dire au Seigneur, dressons ici trois tentes, comme il avait dit à la Transfiguration, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Ça veut dire, installons-nous dans cette situation, Jésus est au milieu de nous, nous n'avons rien à craindre, tout va bien. Sauf que, si le Seigneur est ressuscité, si je vous l'ai dit, un événement historique, il n'est pas ressuscité pour vivre sur cette terre. Il est ressuscité pour que son humanité, glorifiée, revivifiée pour toujours, soit exaltée auprès de Dieu, auprès de son Père. Et donc Jésus n'est pas fait pour vivre sur cette terre, mais il est fait dans son humanité pour entrer dans la communion divine, la communion trinitaire. Et nous aussi, pour que notre foi soit plus parfaite, il convient que nous ayons nos regards tournés vers les réalités du ciel, comme le disait saint Paul. Parce que nous ne sommes pas faits pour vivre sur cette terre, mais faits pour vivre près de Dieu, en Dieu, pour Dieu, avec Dieu. C'est pourquoi Jésus nous montre le chemin. Et Jésus remonte au ciel, ou plutôt monte au ciel, c'est plus juste. Je m'explique. Quand le Fils de Dieu, le Verbe, Père Jean-Marie vous a parlé de l'incarnation, je pense, déjà, et vient parmi nous, excusez-moi d'être un peu trivial, mais il n'y a pas un trou dans la Trinité. Vous voyez, le Fils, de fait qu'il vienne au milieu de nous, il n'y a pas au ciel un trou dans la Trinité. Le Verbe, le Fils, ne cesse pas d'être dans la communion éternelle, divine, avec le Père et le Saint-Esprit. Mais il assume une nature humaine dans le sein de la Vierge Marie, tout au début, et cette nature humaine, comme toute nature humaine, elle grandit, se développe. Arrivé à maturité, sa mort, Jésus est ressuscité, et cette humanité qu'il a assumée et qui est désormais glorifiée pour toujours par la résurrection, il veut qu'elle soit introduite dans le mystère de la Sainte Trinité. C'est-à-dire que c'est dans son humanité que Jésus monte au ciel. Ce n'aurait pas de sens de dire qu'il monte au ciel dans sa divinité, il y est déjà. Mais il monte avec son humanité glorifiée au ciel, c'est-à-dire qu'il habite en Dieu, avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour toujours. Et donc, cette humanité de Jésus, exaltée au ciel, ouvre pour nous la porte du ciel, qui avait été fermée en raison du péché de nos premiers parents. Et Jésus, comme premier, à la tête d'une humanité nouvelle, nouvel Adam, dirait saint Paul, ouvre la porte du ciel, la porte du paradis, qui consiste, le paradis, à voir Dieu et à vivre en Dieu et avec Dieu. Ainsi, dans son humanité glorifiée, Jésus entre auprès du Père, et Jésus nous entraîne à sa suite dans cette espérance que nous aussi, nous sommes appelés à vivre auprès de Dieu pour toujours, non seulement avec notre âme, mais aussi avec notre corps, appelé à vivre également pour toujours auprès de Dieu par la résurrection finale. Ce sera l'objet d'un autre enseignement, je pense. Voyez donc, Jésus a sauvé non seulement tous les hommes, il veut appeler tous les hommes au salut, mais il a sauvé l'homme tout entier. Ce n'est pas seulement notre âme qui sera auprès de Dieu dans un premier temps, si, au moment du jugement particulier, mais ultimement, c'est notre âme et notre corps, parce que nous sommes un composé d'âme et de corps. C'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains à part entière, et donc notre vie au ciel auprès de Dieu, notre humanité auprès du Seigneur ne peut pas être amputée d'une de ses composantes. Et c'est pourquoi le Christ, Jésus, Dieu fait homme, a sauvé non seulement nos âmes, mais nos corps, et la résurrection montre ce salut ouvert aussi pour nos corps, et l'ascension nous ouvre le chemin pour que nous aussi, à sa suite, nous puissions entrer un jour auprès de lui et vivre en lui pour toujours. Mais cette ascension du Seigneur, elle dit aussi comment le Seigneur accomplit tout son ministère, tout cette logique de l'incarnation. Il s'est fait homme pour que dans son humanité, l'homme tout entier soit sauvé. Mais aussi autre chose, c'est que le Seigneur, en entrant au ciel avec son humanité, va exercer aussi un sacerdoce éternel au ciel. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek, dit le psaume, qui attribue cette phrase donc au Messie, et Jésus est le Messie par excellence. Et ce temps messianique est accompli désormais en Jésus, et ce Messie qui est aussi notre prêtre, qui s'est immolé sur la croix, qui a donné sa vie pour nous, qui s'est sacrifié, mais qui était également la victime, il entre désormais dans le Saint des Saints, comme jadis au Temple de Jérusalem le faisait le grand prêtre au jour du Yom Kippour, après maint sacrifice, une fois par an, et intercédait pour les pécheurs. Et comme le dit l'Épître aux Hébreux, Jésus est rentré dans un Saint des Saints, dans un temple nouveau, non fait de main d'homme, puisque ce temple, c'est la communion même avec Dieu. Et dans son humanité sacerdotale, en tant qu'il est grand prêtre, qui a été offert sur la croix, Jésus entre dans ce Saint des Saints du ciel pour intercéder en notre faveur pour toujours. Et comme le dit encore l'Épître aux Hébreux, à la différence des grands prêtres de l'Ancien Testament, qui allaient une fois par an, mais ils en ressortaient, et on n'y allait qu'une fois par an, Jésus lui demeure pour toujours dans le sein du Père pour intercéder pour nous et pour assurer définitivement ce ministère de grand prêtre qui intercède pour toute l'humanité et obtient le pardon des péchés et la vie pour tout homme qui se tourne vers lui. Ainsi, cette ascension, elle est le triomphe de Jésus qui rentre au ciel avec son humanité et qui nous ouvre la porte du ciel. Dans les Actes des Apôtres, l'ascension de Jésus est décrite, et le texte est intéressant. Dans tout début des Actes des Apôtres, on dit « il fut enlevé au ciel ». C'est un très beau mot grec. D'abord, vous remarquerez la forme passive. C'est Dieu qui prend l'humanité au ciel. C'est pas l'humanité, telle celle de Jésus, qui se propulse elle-même au ciel. Dieu s'est abaissé vers nous et Dieu prend l'humanité au ciel parce que le Seigneur veut s'associer tous les hommes à sa joie, à son bonheur, à sa gloire. Et ce mot très beau, il fut enlevé, il a plein de significations différentes. On peut noter comme cela. Ça veut dire par exemple que c'est recevoir, accueillir avec soi. Dieu nous reçoit, nous accueille pour que nous vivions en lui et par lui. C'est aussi contenir en soi. Dieu veut que nous entrions dans cette communion divine qu'est la sienne, communion trinitaire. C'est aussi revêtir sur soi. Et donc, nous avons, par la résurrection et l'ascension du Seigneur, été revêtus de la divinité. Nous sommes devenus, par la grâce de Dieu, et nous sommes appelés à le devenir pleinement au ciel, participants de la divinité de Dieu, participant de sa sainteté, mais c'est la même chose. Il y a aussi une autre signification de ce mot « fut enlevé », c'est « reprendre », c'est notamment « reprendre le pouvoir ». Dieu a repris le pouvoir sur l'humanité qu'il avait créée, alors que ce pouvoir lui avait été dérobé par le démon, par le menteur, par le Satan, qui a cru être un temps le prince de ce monde et le croit encore, à bien des égards, d'ailleurs c'est vrai, mais pas complètement puisque Dieu a le dernier mot. C'est aussi ce mot aussi un sens de rétablissement, de restauration. L'homme en Jésus a été restauré dans sa dignité originelle. L'homme a été redonné à ce dessein que Dieu voulait pour lui. C'est également réparer, corriger, puisque nous avons été guéris du péché et que la résurrection et l'ascension sont la conséquence de cette guérison du péché, puisque Dieu nous donne sa vie en plénitude. Et enfin, un autre sens, c'est attirer à soi, se concilier. Dieu veut faire des hommes ses amis. Jésus l'a dit, vous vous souvenez, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. » Et c'est ainsi que le Seigneur donc fait de nous ses amis. Et il le fait en nous donnant de participer à sa gloire pour toujours. Voilà ce qu'accomplit cette ascension du Seigneur et qui nous fait regarder vers le ciel, vers les réalités d'en haut, comme le dit si bien saint Paul. Maintenant, un autre moyen pour Jésus de manifester sa vie pour nous et au milieu de nous et en nous, vous le savez, alors que maintenant il est au ciel, c'est de rester parmi nous par la présence de ces sacrements qui assurent ce contact, ce toucher de Dieu au milieu de nous. Nous ne voyons plus Jésus tel qu'il était, il ne peut plus nous toucher physiquement, mais les moyens qu'il nous laisse, ce sont les sacrements pour venir toucher nos âmes, toucher nos cœurs, rester en contact et proche de nous. Et notamment, bien sûr, le moyen privilégié, le plus grand, le plus abouti, le plus beau, c'est la Sainte Eucharistie. Et vous permettrez de lire juste un petit passage du discours sur le pain de vie dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 6. Jésus disait « Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Cependant, les Juifs discutaient entre eux. Comment, disaient-ils, cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit donc, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra lui aussi par moi. Ce discours de Jésus, au moment où il le fait, je vous rappelle que c'est évidemment avant l'institution de l'Eucharistie, dans la synagogue de Capharnaüm, scandalise un certain nombre de ses disciples. Ce qu'on peut comprendre, d'autant plus que les disciples mangeaient cachère, les juifs, pardon, mangeaient cachère, qui veut dire les animaux vidés, toujours aujourd'hui, les animaux vidés de leur sang. Donc, manger le sang, boire le sang de quelqu'un, c'est quelque chose pour eux d'abominable, quelque part. Et donc, quand Jésus dit ça, c'est une vraie provocation à la raison et à la culture de ce temps, d'autant plus. Comment comprendre ça avant que Jésus institue l'Eucharistie ? Sans doute ceux qui sont restés fidèles et qui ne l'ont pas quitté, puisqu'on dit après qu'un certain nombre l'ont quitté, ceux qui sont restés fidèles n'ont pas sans doute tout compris, mais ont fait confiance au Seigneur, et ce beau discours sur le pain de vie s'éclaire évidemment après l'institution de l'Eucharistie et après que Jésus soit mort et ressuscité. Mais ce qui nous intéresse dans ce récit, c'est que Jésus dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang ne dit pas « aura la vie éternelle ». Il a la vie éternelle. Ici, c'est traduit par « possède » dans mais le vrai mot c'est « a », c'est le verbe « avoir ». Il a la vie éternelle au présent. C'est dire que dans la Sainte Eucharistie, dans le changement du pain et du vin dans le corps et le sang de Jésus, c'est Jésus vivant que nous recevons. Jésus pleinement ressuscité. La Sainte Messe nous fait participer au sacrifice du Seigneur offert pour nous. Et par la Sainte Messe, en quelque sorte, nous sommes projetés au pied du calvaire avec la Vierge Marie, avec Saint Jean, parce que c'est une réactualisation de cette offrande unique et définitive de Jésus sur le calvaire. On ne recommence pas le sacrifice du Seigneur, mais dans l'Eucharistie, nous sommes mis en présence du sacrifice du Seigneur, d'une part. Mais d'autre part, il y a dans cette consécration et ce sacrifice renouvelé, la présence réelle qui est opérée. C'est-à-dire que ce qui est du pain au départ, dans sa forme la plus simple, de la farine et de l'eau, tout simplement pétri et cuit, sans rien d'autre, donc sa forme la plus simple, ce pain de base est transformé dans le corps du Seigneur. Alors ça, c'est difficile de comprendre ça. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire qu'on a changé de substance, à savoir. Prenons par exemple la statue de la Sainte Vierge qui est derrière moi, vous voyez. Cette statue, il y a plusieurs aspects. Premièrement, elle est, admettons qu'elle est en pierre, j'en sais rien, peut-être en plate, peu importe, admettons qu'elle est en pierre, donc ça c'est la matière de la statue. Il y a quelqu'un qui a fait la statue, donc qui est la cause efficiente, celui qui a fabriqué la statue, qui est l'artiste, qui l'a sculptée. Et puis, il y a le but pour lequel cette statue était faite, pour la vénération des fidèles. Et puis, il y a la forme de la statue qui nous permet d'y reconnaître la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus. Entendu. Donc, vous voyez, ce qui fait que, quand vous regardez cette statue, vous dites tous... C'est une statue de la Vierge Marie. Ça va ? Admettons qu'un artiste habile reprenne cette statue, on garde la pierre, donc ça ne change pas. On veut toujours que ce soit pour la vénération des fidèles, ça ne change pas. C'est le même artiste qui va la faire, ça ne change pas. Mais un artiste habile, il va resculpter, il va faire une barbe, il va faire des plis différents... il va donner un autre aspect à cette statue, et ça devient une statue de Saint-Joseph. En fait, on a changé quoi ? La forme, ce qui fait qu'il nous permet de définir que c'est une statue de la Vierge Marie, et non pas de Saint-Joseph, ou de Saint-Antoine de Padoue, ou de qui sais-je. Vous voyez ? Et donc, l'essence, la substance, c'est ce qui fait que telle chose est vraiment telle chose. Si on change la substance, eh bien, on change en fait la chose. La chose n'est plus ce qu'elle était. Elle devient autre chose. Vous me suivez ? Alors, dans l'Eucharistie, eh bien, ce qui se présente comme du pain, donc a une certaine forme, un certain goût, une certaine couleur, avec des éléments de la farine, de l'eau, etc. Et tout ça, c'est les éléments extérieurs qui nous font dire « c'est du pain ». Effectivement. Quand il y a la consécration, en réalité, la substance du pain, c'est un miracle, hein, la substance du pain disparaît et est remplacée par le Seigneur, tout en gardant l'aspect extérieur. Et donc, même si on voit encore ce qui est extérieur, la farine, l'eau, etc., ce n'est plus du pain, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même, totalement présent avec son corps, avec son âme, avec son sang, avec sa divinité tout entier et son humanité. Et donc c'est Jésus qui est là présent dans la Sainte Eucharistie. Une fois que je vous ai dit ça, moi avec mes mots, je suis comme vous, je ne comprends pas plus. C'est-à-dire que bien sûr, ça reste un, et sinon le plus grand mystère sur la terre de notre foi. Le plus grand mystère étant le mystère trinitaire, dans l'absolu. Mais sur la terre, et parce que ce n'est que pour la terre, il n'y aura plus l'Eucharistie au ciel, on n'aura plus besoin de l'Eucharistie, on aura Jésus en direct. Mais sur la terre, c'est le plus grand mystère de notre foi. Et Jésus est vraiment présent là, tout entier, et vivant, et se donne à nous dans la Sainte Eucharistie. Et il se donne à nous vivant. Vous avez remarqué que dans l'Eucharistie, il y a deux matières. Quand pour le baptême, il y a une seule matière, c'est l'eau. On verse l'eau et on dit « je te baptise » au nom du Père, etc. La confirmation, pensons à tous nos confirmés d'aujourd'hui, donc c'est le Saint-Crème qu'on met sur le front, on dit « je te marque du sceau de l'Esprit-Saint ». Très bien. Dans l'Eucharistie, il y a deux matières, le pain et le vin, qui deviennent le corps et le sang de Jésus. En réalité, Jésus est présent tout entier dans chacune des matières. Mais s'il y a deux matières, c'est pour symboliquement montrer extérieurement la mort du Seigneur, qui est la séparation du corps et du sang, le sang étant comme l'âme pour les Juifs. Vous voyez l'idée ? Je vous dis ça pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit geste que fait le prêtre à la fin, avant la communion. Il prend une petite parcelle de l'hostie consacrée, donc qui est Jésus, et qu'il met dans le calice, qui est consacré, qui est le sang du Christ, et dit que ce corps et le sang du Christ mêlés fassent que nous qui allons le recevoir, nous qui allons le recevoir, puissions entrer dans la vie éternelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme symboliquement la résurrection du Seigneur qui est manifestée par la réunion du corps et du sang. C'est symbolique, bien sûr, parce que Jésus est totalement présent dans le corps, donc dans le pain, sous l'espèce du pain, est totalement présent sous l'espèce du vin. C'est pour ça qu'il suffit de communier à l'une ou à l'autre. Je ne suis pas obligé de communier aux deux. Vous voyez ? Et donc, mais symboliquement, il y a cette réunion pour signifier justement que c'est au Seigneur ressuscité que nous communions. Et c'est lui que nous recevons vivant, lui qui vient toucher nos âmes, nous donner de participer à sa vie, fortifier la vie reçue au jour de notre baptême, nous faire grandir dans sa vie et nous donner déjà, ici sur la terre, de goûter les arts de la vie éternelle pour vivre un jour définitivement avec lui. C'est pour ça que le Seigneur dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Nous l'avons déjà. Et donc, c'est dans cette foi au Seigneur vivant et présent dans la Sainte Eucharistie que nous communions. Je vois que le temps passe. Juste une dernière chose à propos du pardon que le Seigneur nous donne aussi, qui est pour nous gage de vie. Parce que ce pardon que le Seigneur nous laisse, il nous sort des griffes du démon, si je puis dire, et il nous sort donc de l'emprise du péché et de la mort. Et peut-être vous souvenez-vous dans Saint Jean, quand Jésus apparaît pour la première fois aux apôtres, je vous lis le texte, le soir de ce même jour, le premier de la semaine, ce jour de Pâques, alors que par crainte des Juifs, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, Jésus vint se placer au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous ». Et ce disant, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit de nouveau « Paix à vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Et on voit déjà donc cette parole du Seigneur, cette première parole, c'est la paix soit avec vous. Le Seigneur nous donne sa paix. Et vivre du Seigneur, c'est aussi participer de cette paix. Saint Augustin l'a défini comme la tranquillité de l'ordre, c'est-à-dire Dieu a tout rétabli, l'ordre et l'harmonie dans notre humanité par sa résurrection. Et il veut nous donner d'y participer. Et puis, le premier effet, première chose qu'il donne, c'est en soufflant sur ses apôtres, il leur donne l'Esprit Saint pour un but très particulier, la rémission des péchés. Parce que c'est la première chose qui ouvre en fait nos âmes à la vie que Dieu veut nous donner en plénitude. Et le mot est très beau, quand on dit « il souffla sur eux », c'est un mot, on dit en grec, c'est un apax, ça veut dire que c'est un mot qu'on ne rencontre qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Mais en revanche, c'est un mot qu'on connaît dans l'Ancien Testament en grec, dans sa version grecque, vous savez que c'est écrit en hébreu, mais dans sa version grecque, on le rencontre tout à fait à l'origine, dans la Genèse, quand Dieu modèle l'homme de la glaise, il souffle dans ses narines une haleine de vie. Et c'est le même mot qui est employé. Et aussi quand Dieu donne la vie aux ossements desséchés dans Ézéchiel, je ne sais pas si vous vous souvenez, au chapitre 37. C'est le même mot. Et donc, ce mot est intéressant parce qu'il nous dit comment, dans cette rémission des péchés et le pouvoir que Jésus donne à ses apôtres, c'est cette vie qui vient de Dieu, cette vie qu'il veut nous donner, et c'est dans cette vie à cette vie de Dieu, que nous participons, parce que a été ôté en nous l'obstacle du péché et que nous pouvons désormais vivre pleinement de la vie de Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire, sûrement beaucoup d'autres choses. Simplement en conclusion, souvenons-nous de Saint Paul qui disait « Pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un avantage. » Saint Paul n'avait pas peur de la mort, parce qu'il savait que la mort, pour un chrétien, ouvre à la plénitude de la vie dans le Seigneur Jésus, dans la communion de la Sainte Trinité. Alors, pensons avec lui que pour nous aussi, vivre, c'est le Christ, ainsi soit-il.